Mardi 9 août, l'info sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC.
Bon réveil sur RMC. Il est 7h, c'est l'heure du journal. C'est avec vous, Julien Coudreau. Bonjour Julien.
Bonjour Raphaël. Un autre espoir de médaille coulé à Rio. Désillusion pour Camille Lacour, 5e du 100 mètres d'eau. Le Marseillais très remonté contre la présence d'anciens athlètes dopés au JO. Le compteur français ne parvient toujours pas à passer la seconde. Une seule médaille après 3 jours de compétition. Pire démarrage pour la France au JO depuis 36 ans. Et puis, une décision qui ne passe pas. Le gouvernement a validé le licenciement d'un délégué CGT d'Air France. Le syndicat l'accuse de prendre sa revanche après les manifestations contre la loi travail. 7h01 sur RMC. Bonjour à tous. Son regard à l'arrivée en disait long. Grande déception pour Camille Lacour cette nuit à Rio. Le Français est seulement 5e du 100 mètres d'eau. Son ultime quête de médaille n'aura donc pas abouti, Camille Gelpi.
Le vide restera. Camille Lacour ne sera jamais médaillée olympique en individuel.
Non, j'aurais pas de médaille olympique, mais j'ai une carrière qui est plutôt cool et deux finales, c'est déjà pas mal.
Cette nuit, il a nagé son meilleur temps de la saison, mais ça n'a pas suffi. Malgré un détachement de façade, c'est le pas lourd et la tête basse qu'il a quitté la piscine. Son entraîneur, Julien Jacquier, au soutien.
Il n'y a pas de mots, il y a être à côté, présent et attendre que lui ait envie de verbaliser des choses et de réagir par rapport à ça.
Mais il en avait déjà verbalisé des choses, exprimant à notre micro son dégoût des scandales du dopage dans la natation.
Ça me plaît pas de pas être sur le podium. En même temps, je vois le podium du 200 libre, donc ça me donne un peu envie de vomir.
Une réaction que son entraîneur tentait d'expliquer.
C'est quelque chose qui le dégoûte et du coup, à chaud, voilà, il a réagi. J'ai pas à revenir là-dessus. Je comprends qu'il soit déçu.
Une déception qui a fait beaucoup de bruit.
Un reportage de Camille Gelpi à Rio. Nouvelle désillusion donc pour la natation qui s'ajoute au zéro pointé en judo, à la Bérésina au tennis. C'est le pire début, je vous le disais, de l'équipe de France depuis les JO de Moscou en 1980. Antoine Arlot, la météo bleu est décidément complètement grise après 3 jours de compétition.
Oui, les supporters français commencent à désespérer. Au tableau des médailles, la France est 27e derrière des nations comme Taipei, l'Indonésie ou encore le Kosovo qui ne compte que 8 athlètes à Rio. Les habituels pourvoyeurs de médailles tricolores du judo ou de l'escrime ne sont pas encore au rendez-vous. Au tennis, les athlètes se prennent les pieds dans le tapis les uns après les autres et donc dernière déconvenue la nuit dernière en natation avec Camille Lacour annoncée comme l'un des favoris sur 100 mètres d'eau mais qui n'a pu faire mieux qu'une 5e place. Mais ces JO sont encore longs et la France pourrait vraiment lancer ses jeux aujourd'hui. Soyons optimistes, notamment au canoë et en équitation où les Français sont en course pour 2 médailles. Et puis les épreuves d'athlétisme ne débutent que vendredi, alors tout pourrait s'accélérer, mais il va falloir faire vite pour décrocher la 40aine de médailles espérées.
Antoine Arlot et ses espoirs de médailles, on y revient dans quelques instants dans le journal des sports de Rodolphe Massé. Mais avant cela, les images avaient fait le tour du monde. La chemise arrachée du DRH d'Air France en plein comité central d'entreprise, c'était en octobre dernier. Depuis, 4 salariés accusés d'avoir pris part à ces violences ont été licenciés, 4 et même 5 depuis hier, puisque le gouvernement a décidé de valider le renvoi d'un délégué syndical CGT, et ce contre l'avis de l'inspection du travail. Colère de Philippe Martinez, Elisa Bertholomé, le patron de la CGT, voit une revanche du gouvernement.
Il juge même que c'est une décision éminemment politique, Philippe Martinez, et que quelque part, le gouvernement serait en train de régler ses comptes avec la CGT qui a vivement bataillé contre la loi travail ces derniers mois. Et le secrétaire général du syndicat de poursuivre, l'annonce du ministère du Travail est une manière de renforcer la répression syndicale par le gouvernement. Alors du côté du ministère du Travail, on considère que la faute est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Myriam El Khomri se défend. Cette décision est cohérente avec le licenciement de 4 autres salariés impliqués dans le même dossier qui ne bénéficient d'aucun mandat syndical. Saisi, l'inspection du travail avait refusé en janvier dernier le licenciement pour faute lourde du délégué syndical. Avis que la ministre du Travail a donc préféré ne pas suivre.
Explication signée Elisa Bertholomé. La crise des migrants ne connaît pas de trêve. Situation très tendue ces derniers jours à Menton. 200 migrants aidés par des militants No Border ont traversé la frontière en force ce week-end avant d'être renvoyés en Italie. En plein état d'urgence, le phénomène inquiète la municipalité qui redoute que de potentiels terroristes n'en profite pour se glisser au milieu des réfugiés. Un reportage Élodie Messager.
Pour le maire de Menton, Jean-Claude Guibal, les moyens de contrôle à la frontière franco-italienne sont insuffisants. Il faut selon lui repenser le dispositif.
Les flux migratoires sont devenus extrêmement puissants. La situation amène à demander au ministre de l'Intérieur de redéployer des militaires en complétant le contrôle de l'immigration par une lutte contre le terrorisme, en même temps que soient renforcés les moyens matériels.
Teresa est quasiment tous les jours sur le terrain Perrin, membre du collectif Migrants 06, elle affirme que ces solutions sont inadaptées.
Plus de policiers, c'est pas la solution. Ça veut dire que l'Italie, alors à tous les migrants qui arrivent, ça, à mon avis, ça va pas être gérable du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait des gens? C'est facile de les renvoyer chez les voisins. Quand le maire de Menton dit que c'est des djihadistes, je trouve ça grave parce que c'est criminaliser des gens. Et puis quand ils sont dans les campements, la Croix-Rouge et la police, c'est vraiment très contrôlé. Donc s'il y avait des djihadistes, on le saurait quand même.
Et près de 700 migrants tenteraient actuellement de rentrer en France en passant par Vintimille.
Le reportage d'Élodie, Messager les migrants et un avertissement ce matin dans les colonnes du journal Le Monde. Interview de Recep Tayyip Erdogan, le président turc menace de rompre les accords migratoires avec l'Europe à qui il reproche de ne pas appliquer sa part du compromis conclu en mars. Le président turc déplore l'attitude notamment des pays occidentaux qui se sont montrés selon lui beaucoup trop mesurés dans leur critique du coup d'état manqué du 15 juillet dernier. La situation en Syrie, les rebelles et le régime se préparent à une bataille cruciale à Alep, la deuxième ville du pays. Les deux camps ont appelé des milliers d'hommes en renfort ces dernières heures. Ce week-end, les insurgés sont parvenus à briser 3 semaines de siège imposés par le régime. Entre 200 et 300 000 civils étaient pris au piège. Le docteur Ziad Alissa préside une association d'aide à la population syrienne. Sur place, la situation humanitaire est dramatique.
Les collègues qui travaillent là-bas, ils n'arrivent pas à continuer à assurer cette aide médicale. Tous les camions qui amènent d'aide humanitaire médicale là-bas, ils n'arrivaient plus à rentrer dans cette zone. Il y a un manque de tout. Ces zones, c'est très dangereux pour l'instant parce que les combats continuent, les bombardements continuent. Vu quand même qu'il n'y a pas un cessez-le-feu, le travail humanitaire est très dangereux dans ces zones-là.
Les propos recueillis par Milena Payon. Enfin, vous les avez peut-être aperçus si vous êtes passé récemment par la gare de Lyon à Paris. Depuis une semaine, de grands tableaux noirs ont été installés par la SNCF. Les voyageurs sont invités à y écrire leur dernière volonté, un projet artistique participatif qui a surpris hein, avec l'actualité tragique de ces derniers mois. Pourtant, Juliette de Noël, de nombreux voyageurs se sont prêtés au jeu.
Un grand mur noir, des lignes pour y tracer à la craie blanche ses dernières volontés. Maya, 24 ans, valise à la main, n'a pas hésité.
J'aimerais vivre chaque jour de ma vie comme étant le plus beau. Je suis arrivée, j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, c'est génial !» C'est super cool d'avoir fait ça.
À son tour, Roxane, bagage sur le dos, s'avance timidement, hésite avant de sauter le pas et d'y inscrire, faire le tour du monde.
Je trouve ça super, parce qu'on peut voir que n'importe qui peut écrire ce qu'il veut et personne ne va le juger.
Mais c'est sans compter sur Jean, 83 ans, lunettes sur le nez et main dans le dos, très occupé à scruter la moindre ligne et à partager ses impressions.
Dire à tous ceux que j'aime que je ne les oublierai jamais. Ah oui, faire un bon voyage avec ma fille, alors là vraiment c'est quelconque. Être reconnu, t'es rien. Bah oui, on le sait. Être enfin moi, ça c'est une personne qui se cherche. Je trouve qu'il y a moins d'imagination qu'il devrait en avoir.
Pourtant, l'opération séduit et devrait même être reproduite dans plusieurs gares de France.
Le reportage de Juliette Denoyel, 7h08 sur RMC.
Toutes les datas des Jeux Olympiques avec Atos, partenaire informatique mondial des Jeux. RMC, Rio 2016.
Allez, direction Rio pour le journal des sports de Rodolphe Massé. On a parlé du mauvais bilan français après 3 jours. Rodolphe, les basketteurs français, ont relevé la tête.
Oui, une victoire logique, certes, contre la Chine, 88 à 60, mais qui fait du bien, car rappelons que les Français avaient commencé par une défaite contre l'Australie. L'ailier Nicolas Batum estime que l'équipe de France s'est bien retrouvée.
On avait besoin d'un match comme ça, je pense. C'était au-delà de tout ce qui est tactique et basket et tout. C'est vraiment de s'amuser sur un terrain de gagner. Je pense que c'est ce qu'on a manqué sur les 4-5 derniers matchs qu'on a pu jouer. C'est l'amusement et voilà, le plaisir de jouer ensemble. Là, on a vraiment eu ça ce soir. À part notre trou d'air en 3e quart-temps, pendant 5 minutes, mais au-delà de ça, on a quand même été assez sérieux. Et c'est une bonne première étape pour nous.
Nicolas Batum avec François Giuseppe Handball. Les Françaises ont perdu d'un but hier contre la Russie, mais restent dans la course pour la qualification avec une victoire pour une défaite. Et aujourd'hui, ce sont les handballeurs qui vont disputer leur deuxième rencontre contre le Qatar. France-Qatar, c'était l'affiche de la finale du dernier mondial remporté par les Français. Attention, gros choc pour notre consultant Olivier Giraud.
C'est vraiment le très très gros adversaire, ils l'ont prouvé, hein, les Qataris qui ont battu les Croates d'entrée. C'est vraiment peut-être l'équipe qui sera surprise, pas vraiment surprise pour les handballeurs, mais surprise pour les Béotiens. C'est le gros test match. Cette équipe, elle n'a plus peur de la France, hein, il faut se le dire. J'espère qu'il n'y aura pas une surprise. Les Français, vous inquiétez pas, hein, ils connaissent la qualité du Qatar. Ça va être un match où ça va envoyer du lourd.
France-Qatar, c'est à 14h30 à suivre sur RMC, évidemment. À suivre aujourd'hui, des chances de médaille, on vous le promet, en judo avec Clarisse Agbegnénou et Loïc Pietri. Chances de médaille aussi en escrime avec l'épée homme individuel. Ils sont trois Français en lice. Ils peuvent l'emporter, mais il y en a un qui est le favori, Nicolas Jamin. C'est le numéro 1 mondial, Gauthier Grumier, passé au travers il y a 4 ans alors qu'il était déjà le favori.
Le même statut, mais il n'est plus tout à fait le même homme, Gauthier Grumier. 32 ans, jeune père de famille, nouvelle philosophie, moins de calcul, de stress, plus de lâcher prise. Ce qui lui avait manqué il y a 4 ans et valu une élimination dès le deuxième tour des Jeux Olympiques de Londres. Un cauchemar évaporé depuis. Grumier est plus mûr et sûrement plus fort encore aujourd'hui. Numéro 1 mondial, vainqueur de 3 étapes de Coupe du Monde, presque intouchable, celui qui manie l'épée depuis l'âge de 3 ans. Il n'envisage désormais rien d'autre que l'or olympique. Mais il sait également qu'il arrive avec une grosse cible rouge sur la tête, comme il le dit lui-même. « Je suis l'homme à abattre pour tous mes adversaires », précise-t-il. L'homme de Nevers, qui ne craint plus la pression et qui rêve de devenir l'homme de Rio.
Et des chances de médaille, il y en a également aujourd'hui avec l'équitation, le concours complet par équipe, et aussi le canoë slalom monoplace avec Denis Gargaud. En revanche, en tennis, c'est la Berezina. Songa chez les hommes, Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia chez les dames ont tous été éliminés dès le deuxième tour. Seul Gaël Monfils s'est qualifié pour le troisième tour, Raphaël.
Merci Rodolphe. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau journal des sports à Rio au Club France. Vous le savez, hein, RMC est la radio officielle de l'équipe de France Olympique. C'est vrai qu'elle n'est pas très chanceuse pour l'instant, notre équipe tricolore. On va retourner à Rio, tiens, dans un instant, pour comprendre pourquoi. À suivre l'interview ce matin, l'interview du président Erdogan. Il affirme dans les colonnes du Monde que les Occidentaux ont laissé les Turcs tout seuls. Il menace carrément de rompre les accords migratoires signés avec l'Union européenne. L'ambassadeur turc en France sera notre invité tout à l'heure à 8h10. Dans un instant, c'est d'un licenciement qui fait des vagues qu'on va parler, celui d'un délégué syndical CGT Air France. Vous vous souvenez tous évidemment de cette fameuse affaire de la chemise arrachée qui avait fait grand bruit. Eh bien, elle vient de lui coûter sa place. Son syndicat ne décolère pas. Je vais accueillir sur RMC Pascal Bouvier. Il est membre du bureau confédéral de la CGT. Mais d'abord, chose promise, retour à Rio.
RMC, Bourdin Direct, spécial Jeux Olympiques Rio 2016, Raphaël Duchemin, Pierre Dorian.
Et ce matin, le compteur reste toujours bloqué à une médaille. On espérait un podium pour la course cette nuit en 100 mètres d'eau. C'est raté. Après 3 jours de compétition, Pierre, faut-il s'inquiéter?
Bon, c'est vrai, Raphaël, que c'est pas la fête à Rio dans le clan français. Pour comparaison, il y a 4 ans à Londres, après 3 jours de compétition, il y avait déjà 7 médailles. C'est le pire bilan depuis 1980. Bon, soit. Mais il faut bien comprendre aussi qu'on n'attendait pas une pluie de médailles sur les 3 premiers jours. Tout simplement parce que nos meilleures chances, c'est dans les jours qui viennent. Alors, je vous donne quelques exemples. Teddy Riner, ce sera vendredi prochain. Vendredi aussi pour Florent Manaudou sur son 50 mètres nage libre. Renaud Lavillenie, qui est champion olympique en titre au saut à la perche. Lui sautera lundi pour la finale. La voile vient de démarrer et la voile doit aussi, a priori, nous rapporter plusieurs médailles. Il y a également l'équipe de France de handball, par exemple, qui n'aura sa médaille, si elle en a une, que le dernier jour de compétition. Donc les meilleures chances, Raphaël, c'est dans les jours à venir pour l'équipe de France.
Oui, 72 heures d'épreuve et quand même, Pierre, pas mal de désillusions.
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désillusions. L'exemple de Camille Lacour cette nuit s'en est un. Mais faut bien comprendre que c'est comme ça que ça se passe au jeu. Il y a toujours des désillusions et il y a aussi toujours des médailles qu'on n'attendait pas. L'exemple type, c'est ce qui s'est passé hier avec par exemple Manon Brunet 4e au sabre ou Autonne Pavia en judo. Et Raphaël, aujourd'hui ce sont ces médailles-là qui manquent au bilan de l'équipe de France.
Dites-moi, l'objectif, c'est toujours égaler le record de 41 médailles. Pierre, c'est encore possible?
Alors, c'est toujours possible, mais là, franchement, il faudrait que la roue tourne et qu'on commence à avoir de la réussite. En gros, il faudrait que les 4e places se transforment en médailles de bronze. Comment on fait une projection de médailles? C'est pas une vue de l'esprit. En fait, tout simplement, on identifie le potentiel de médailles, on divise par 2. C'est pas une science exacte, mais généralement, on arrive pas très loin du but. On a toujours ce potentiel de 25 médailles d'or, donc 12 médailles d'or, c'est toujours possible. Et 41, ça peut le faire, mais encore une fois, maintenant, il faudra de la réussite dans les jours qui arrivent.
Et puis, la France attend toujours de décrocher de l'or. Ce n'est plus le cas du Brésil. Il peut dire merci, le Brésil, Pierre, à Rafaela Silva.
Oui, Rafaela Silva, et c'est la belle histoire du jour parce que Rafaela Silva, elle est issue d'une des favelas les plus violentes de Rio, la fameuse Cité de Dieu qui a été rendue célèbre par le film du même nom. Une jeunesse difficile comme vous l'imaginez, une jeune fille au sang chaud, bagarreuse, qui a certains membres de sa famille qui vivent tout simplement du trafic de drogue et qui a eu la chance de croiser Flavio Canto, c'est un ancien judoka brésilien qui a monté un club de judo pour les enfants défavorisés de Rio, qui compte aujourd'hui plus de 1000 licenciés. Cette Rafaela Silva, c'est la belle histoire du jour. Elle a offert au Brésil sa toute première médaille d'or.
Bravo à elle. Merci Pierre Dorian, en direct du Club France à Rio. Les Jeux, on va évidemment en parler avec vous tout à l'heure au 32-16. Je serai entre 9h et 10h avec la Dream Team RMC Sport, Serge Simon et Daniel Costantini. 7h15 sur RMC.
Bourdin Direct, RMC tout en direct. Avec RMC, vous ne ratez rien de l'actualité.
Et à 7h16, votre invité Raphaël Pascal Bouvier du Bureau Confédéral de la CGT.
Bonjour Pascal Bouvier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Un délégué CGT est donc un salarié comme les autres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Après tout, qu'est-ce que ça a de choquant qu'une faute soit sanctionnée quand elle est commise ?
Ben, ce qui est choquant, c'est que la faute n'est pas forcément avérée sur cette affaire-là. D'autant plus que l'inspection du travail avait estimé qu'il n'y avait pas licenciement. Et le ministère du Travail, donc la ministre du Travail, a pris une autre décision.
C'est son
bien
droit.
Loin des délais, bien loin des délais du 3 juin, notamment. Il y avait un délai qui courait de 4 mois. Et le 5 août, ce délégué a reçu l'avis du ministère du Travail par lequel il serait licencié.
La faute reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé. Voilà ce que dit précisément le communiqué du ministère.
Oui, tout à fait, mais il faut qu'ils apportent la preuve de la faute, puisque l'inspection du travail, elle estime qu'il n'y a pas de faute, d'autant plus que le rôle d'une inspection du travail, c'est un travail au quotidien auprès des directions, auprès des salariés concernés, qui mènent une enquête contradictoire, et à partir de cette enquête contradictoire, elle a fait un compte-rendu très très précis, précisant que ce salarié-là n'avait pas fait de faute particulière lors de cette action des salariés.
Donc vous dites, dans l'affaire de la chemise arrachée à Air France, non seulement il n'y a pas de faute, mais en plus, la ministre agit en dehors des délais. Ça signifie que c'est une décision politique. C'est ce que vous dites, c'est ce que dit d'ailleurs Philippe Martinez.
Effectivement, c'est une décision politique revancharde de la part du gouvernement, puisque, comme vous le savez, depuis plus de 4 mois, nous sommes en conflit face au gouvernement sur la politique, le projet de la loi travail.
Vous êtes en train de me dire que ce salarié protégé est en train de payer pour les manifestations contre la loi El Khomri.
On peut se poser un certain nombre de questions pour la simple raison, c'est que pendant le conflit de la loi travail, un certain nombre de militants CGT ont été mis en garde à vue après des manifestations, ont été incarcérés, ont pris des sanctions lourdes et importantes. Il y a une véritable attaque du gouvernement contre la CGT. Donc nous sommes très très attentifs à cette situation, et au regard de la situation de Vincent Martinez et de beaucoup de salariés comme les Goodyear.
Vincent Martinez qui est le délégué CGT d'Air France.
Qui est d'Air France. Nous allons regarder tous les moyens qui sont notre possession en termes revendicatifs, juridiques, pour faire intégrer Vincent Martinez.
Donc vous êtes en train de me dire, Pascal Bouvier, clairement qu'un homme tout seul va payer pour tous les autres, c'est ça ?
Le gouvernement veut faire peur aux salariés, moi je pense, en règle générale, et faire taire la voix des salariés, notamment la démocratie syndicale, la démocratie sociale, qui est extrêmement importante pour nous, à la CGT, un gouvernement qui a du mal à faire vivre, notamment, cette démocratie sociale. Pour revenir notamment sur l'attaque maintenant régulière du gouvernement contre les syndicats, plus particulièrement la CGT, il faut savoir que début juin, la CGT a demandé d'être auditionnée par l'ONU. Ce qui a été fait, notamment sur le dialogue social, sur la discrimination, sur la fermeture des bourses du travail. Et de son côté, le gouvernement a été aussi auditionné par l'ONU et a eu beaucoup de difficultés à répondre à un certain nombre de questions à partir des arguments qu'on a avancés.
Quelles questions, par exemple ?
Notamment sur la liberté syndicale, sur la démocratie sociale dans ce pays.
Il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a plus de démocratie sociale
La loi travail est un exemple.
On a vu les gens défiler,
mais il y a de plus en plus de répression syndicale dont c'est défini, qui n'existait pas avant.
Il y a aussi de plus en plus de problèmes, hein, pardon, autour des manifestations.
Le problème des casseurs, les casseurs qui sont en dehors des manifestations. Vous avez qu'à regarder de façon très très précise dans les grandes villes. La CGT a un service d'ordre extrêmement important pour que la manifestation se déroule dans de très bonnes conditions. Et il se trouve que des casseurs s'intègrent dans ces manifestations. Et nous, on n'est pas responsable de ça. C'est le gouvernement qui est responsable de cette situation.
Vous allez faire appel de ce licenciement. Il reste effectif, hein, malgré tout.
Il reste effectif, mais il y a un délai de 2 mois de recours. On va regarder de quelle manière nous allons étudier ce recours pour faire invalider la décision de la ministre du Travail.
La suite, c'est quoi, Pascal Bouvier ?
Alors la suite, comme vous le savez, nous sommes le 9 août, nous sommes en pleine période de congé d'été. La décision ne se prend pas tout seul.
Hein, pas tout
non,
le monde.
Non, pas tout le monde, bien entendu, mais la décision ne se prend pas tout seul. Ce sont des décisions collectives au sein de la CGT, avec le syndicat, avec les organisations concernées. Et nous allons regarder très très rapidement, dès la fin du mois d'août, dans les prochains jours, quelles initiatives nous allons prendre.
Merci Pascal Bouvier d'être venu tirer l'affaire au clair, hein, puisque manifestement il va y avoir une suite concernant cette chemise arrachée, ce licenciement prononcé par Myriam El Khomri, puisque la ministre a le droit de le faire, hein, pour un salarié protégé. 7h21 sur RMC. Kevin Flory, nous partons pour Yport, en Seine-Maritime, Yport où on nous écoute sur le 87.6.
Et avec un très beau temps hier durant la journée, 18 degrés dans l'air, 18 degrés dans l'eau, avec cette belle plage de Galets pour ceux qui sont sur RMC Découverte, un très beau temps qui va se maintenir aujourd'hui, on va le voir avec cette petite perturbation néanmoins comprise entre les côtes charentaises et l'Alsace-Lorraine qui donne de la pluie. Cet après-midi, tout ceci va évoluer vers l'est en se disloquant, en apportant quand même un ou deux orages, notamment sur les reliefs des Alpes ou encore des Pyrénées, Mistral et Tramontane, 60 km/h tout de même en bordure de Méditerranée. Les températures contrastées, une nouvelle fois, un pas de changement entre le nord et le sud, 19 degrés à peine pour Cherbourg, 20 degrés du côté de Lille, 23 degrés pour la capitale et jusqu'à 31 degrés entre la Corse et Montélimar.
À suivre sur RMC, le choix de Pauline. En fait, cet été, le bicentenaire de Frankenstein. Mais que cache le mythe qui est vraiment Frankenstein ? Pauline Baduel va nous faire trembler dans une minute sur RMC.
RMC, Bourdin Direct. Le choix de Pauline, Pauline Baduel.
200 ans déjà, Pauline, la créature, Frankenstein fait toujours aussi peur, créée à l'été 1816, un soir d'orage. Que reste-t-il du monstre aujourd'hui? Une expo en Suisse, un film universel en préparation, une série aussi. Pauline, qui est vraiment Frankenstein?
Je vais vous faire peur à 7h30. Franchement, je suis sans cœur. Vous avez le droit de savoir quand même, parce qu'il faut rétablir quelques vérités. On a tous en tête l'image du géant avec les boulons dans la tête. C'est un peu ça, non?
C'est un homme grand. Frankenstein, c'est les morceaux, les cicatrices. Je trouve ça insupportable, je ne vais pas plus loin. Ces morceaux, ces pièces détachées, à recoller, et tout. C'est le premier clone de l'histoire de l'humanité.
Il a des boulons. Des boulons. Il a une tête un peu carrée, non? Est-ce qu'il est cousu? Ouais, je vois des coutures aussi.
Non, moi, je dirais qu'il parle pas, tiens. Qu'il grogne peut-être,
oui,
mais pas qu'il parle.
Mais sauf qu'au départ, eh bien, la bête n'est pas si effrayante que ça. Quand Mary Shelley écrit Frankenstein, on est au 19e siècle, les fantômes sont à la mode, on aime avoir peur, peur de ce qu'on ne voit pas. Mais cette femme si prude, si lyrique, eh bien, crée une créature très complexe, fabriquée à base de corps humain, recousue d'électricité. Le soir d'un orage, la bête s'éveille, le scientifique exulte. C'est vivant, c'est vivant. Mais très vite, il va regretter. Le docteur Frankenstein, d'ailleurs, ne donne pas de nom à la créature. C'est un peu apprivoisé. D'ailleurs, c'est une erreur de l'appeler Frankenstein. En fait, elle n'a tout simplement pas de nom. Résultat, cette chose de 2,40 m avec sa peau jaune, ses yeux sans couleur, eh bien, est une bête incomprise, mal aimée, qui, dans le rejet, va faire de terribles choses.
Donc, en fait, si je vous suis bien, Pauline, au départ, c'est une gentille créature.
Mais même intelligente. Dans le roman, elle parle, elle a même la faculté de parler. Mais c'est au cinéma que tout va changer. Pour en faire un mythe, on va l'enlaidir, les boulons dans le crâne, on ralentit le monstre aussi, pour augmenter son effet de surprise, il va crier. Fini le romantisme, fini le lyrisme. Bonjour le bon gros film d'horreur mêlé de sang, de chair de poule. Alors en tout, il y aura une quarantaine d'adaptations cinématographiques. Je sauve évidemment celle de James Wells. On est en 1939. 31, il y a l'acteur Boris Karloff qui va populariser l'image de la créature. Ensuite, il y en aura plein. Il y aura un film avec De Niro en 94. Un bide absolu, c'est raté, complètement raté. L'année dernière, Docteur Frankenstein avec Daniel Radcliffe. Et puis bientôt, un nouveau film avec Javier Bardem. Qui sait, Universal veut relancer la marque. Alors, j'ai posé la question à Gilles Menegaldo. Il est professeur de littérature, spécialiste de science-fiction. Mais pourquoi Frankenstein a autant de succès ?
Quand le roman a été écrit, on s'intéressait beaucoup à la question de l'électricité, à la possibilité que l'électricité puisse ressusciter des créatures. Et puis, je crois qu'il y a eu des avancées scientifiques, évidemment aussi, qui ont contribué à revitaliser cette mythologie, notamment autour du clonage. Tout ce qui concerne aussi la créature artificielle, l'intelligence artificielle, même si, évidemment, la créature de Frankenstein n'est pas une intelligence artificielle au sens où on l'entend. Et je crois que la force de cette créature, c'est justement d'associer l'horreur et effectivement une sensibilité à fleur de peau qui touche y compris parfois le public jeune, puisque dès les années 40, on trouve des céréales, des flocons d'avoine avec l'effigie de la créature de Frankenstein.
Voilà, en fait, si le mythe est toujours aussi présent, c'est peut-être parce que Frankenstein est le monstre le plus proche de l'homme. Il pose les questions du clonage, la mécanisation, les prouesses scientifiques et puis la question de la religion, la croyance. Dieu n'est pas tout puissant puisque l'homme peut donner la vie. Mais en rejetant cette créature, finalement, qui est le monstre ? L'homme ou la chose ? Ben voilà, il y a plein de questions, c'est la preuve qu'on n'a pas fini d'épuiser le mythe. Et si vous n'êtes pas loin de Genève pendant les vacances, eh bien il y a une très belle exposition à la Fondation Martin Bodmer. Elle retrace toute l'histoire de la créature. C'est tout près du lac Léman, là où il a été créé.
Le film, l'expo et la série. Pauline Baduel qui revient demain matin à la même heure.
Ça fait peur, hein. Comme les performances françaises à Rio,
Pauline, hein.
Un peu comme la soupe à la grimace pour les sportifs français. D'ailleurs, dans un instant, on file sur les réseaux sociaux une seule médaille en 3 jours. Les internautes s'impatientent et on va en sourire dans une minute sur RMC.
Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, les 1000 visages des villages en France. Des habitants passionnés vous font revivre leur village à travers un patrimoine d'une incroyable diversité, unique au monde. Mon village en France, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24.
RMC, Bourdin Direct, c'est aussi sur Facebook et Twitter.
Et c'est Charles Magnan qui surveille, oui, les réseaux sociaux. Oui. Une seule médaille, vous le disiez, hein, pour la France après 3 jours d'épreuves et évidemment... Sur Twitter, c'est soupe à la grimace.
On va réussir à repartir avec moins de médailles à Rio que de points à l'Eurovision. Voilà, on commence un peu à perdre confiance, hein, sur Twitter. Pour l'instant, la France est en tête du tableau des médailles en chocolat, note un internaute. Selon un autre, au bout de 54e place, on aura peut-être droit à une petite médaille de bronze en bonus. Au point où on en est, je suis prêt à apprendre les règles de l'équitation pour enfin m'enflammer pour une médaille. Bref, à force de répéter, on aura des médailles après-demain. La France va décrocher la médaille d'or de procrastination.
Oui, à tel point que les internautes se moquent du discours de nos athlètes après leur défaite.
Et oui, c'est la faute des arbitres, c'est la faute du vent, la faute de mon orteil. Belle imagination de la part de nos sportifs quand il s'agit de se trouver des excuses. Voilà ce qu'on peut lire ce matin sur Twitter. D'autres se lancent carrément dans des théories du complot. C'est évident, les filets sont trop hauts, les cages trop petites, les bassins trop longs. Tout est fait pour faire perdre nos Français. On se demande d'ailleurs qui sera le prochain accusé après une défaite française à Rio. Le soleil, les Russes, les arbitres ou même Karim Benzema. Bref, comme le rappelle un internaute, si les Français ne remportent pas plus de médailles, c'est surtout la faute de leurs adversaires.
Charles Magnan, 7h29 sur RMC.
Et à suivre, sur RMC, direction Menton. 200 migrants ont franchi la frontière entre l'Italie et la France ce week-end. Le maire de Menton réclame des contrôles systématiques à la frontière. Il est en direct sur RMC juste après le journal de 7h30.
Et juste après la météo avec vous, Kevin Floury. Bon, c'est pas fameux pour aujourd'hui, mais ça va s'améliorer.
Ça va s'améliorer. En attendant, on retrouve la perturbation arrivée hier sur le nord-ouest. En ce moment, des côtes charentaises en remontant vers l'Alsace-Lorraine, des pluies un peu plus soutenues d'ailleurs, entre Mulhouse et Strasbourg. Cet après-midi, cette perturbation gagne du terrain et se disloque. On retrouvera simplement quelques averses entre les Pyrénées et les Alpes. Un ou deux coups de tonnerre possibles sur les reliefs. Les températures agréables, encore une fois dans le sud, jusqu'à 31 degrés en bordure de Méditerranée. En Corse, beaucoup plus frais sur le nord. On perd une dizaine de degrés. Tiens, à Strasbourg aujourd'hui, avec seulement 20 degrés annoncés dans l'après-midi.
La météo avec agrifourniture.fr, le site de vos achats de semences et consommables pour toute l'agriculture.
RMC, Bourdin Direct.
7h30 sur RMC, c'est l'heure du journal et c'est avec vous Perrine Storm. Bonjour Perrine.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. 16 ans et déjà radicalisée, sur internet elle relayait la propagande de Daesh. Une lycéenne a été mise en examen à Écrouée en Seine-et-Marne. Les dons du sang avaient explosé après l'attentat du 14 juillet. L'effet de solidarité passé, les réserves sont en nette baisse. JO morose pour le camp français, pas de podium pour Camille Lacour sur 100 mètres d'eau. Les espoirs reposent aujourd'hui sur la judokate Clarisse Agbenienou. RMC, il est 7h31. Des messages inquiétants relayés sur internet, apologie du terrorisme, appel à commettre des attentats. Une mineure de 16 ans a été mise en examen et écrouée en Seine-et-Marne. Une jeune fille très radicalisée que les enquêteurs ont repérée via la messagerie cryptée Telegram. Marion Dubreuil.
Tout a commencé par un signalement pour contenus inquiétants sur une chaîne de l'application Telegram. Les enquêteurs s'intéressent de près à cette chaîne et découvrent qu'elle est administrée par une adolescente de 16 ans, résidant à Melun, une jeune fille sans antécédent judiciaire. Pourtant, sur Telegram, elle relayait la propagande de Daesh, encourageait ses contacts à commettre des attentats sur le sol français et se disait prête à passer elle-même à l'acte. Son domicile a été perquisitionné jeudi dernier. Les policiers n'ont retrouvé ni armes ni explosifs. À ce stade, les enquêteurs n'ont pas mis en évidence une cible ou un projet d'attaque abouti, mais l'ordinateur et le téléphone de l'adolescente sont toujours en cours d'exploitation. La mineure, elle, a été placée en détention provisoire.
Le juillet dernier, après l'attentat de Nice, les Français s'étaient pressés pour donner leur sang, des dons qui, comme chaque été, se raréfient en ce mois d'août. Aussi, l'établissement français du sang lance une nouvelle campagne de sensibilisation. Le niveau de réserve en Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 12 jours. Ce n'est pas alarmant, mais ça reste juste. Au centre de collecte du Vieux-Port à Marseille, peu de nouveaux donneurs. Stéphane Burgat a surtout rencontré des habitués.
Surprenant, c'est bien un cri de joie qui retentit juste avant la piqûre. Sophie vient d'apprendre qu'elle réunit toutes les conditions pour donner son sang.
Je suis contente, mais ça fait deux fois d'affilée que je me fais recaler parce que j'ai un taux d'hémoglobine un peu faible. C'était un cri de victoire.
Effet post-attentat oblige, les donneurs se sont bousculés pour donner leur sang après le 14 juillet niçois. Oui, mais ça, c'était en juillet. La situation aujourd'hui n'est plus la même, constate Jeanne Pascal de l'établissement français du sang.
C'est un élan qui, dans l'idéal, devrait perdurer. Là, on est début du mois d'août, il est 2h15 et vous voyez qu'il n'y a plus aucun donneur qui attend pour s'inscrire.
Et dans ce centre, les donneurs sont surtout des habitués qui sensibilisent leur entourage. C'est le cas de Philippe qui a convaincu son épouse pourtant réticente.
Il faut pousser, il faut argumenter pour qu'un maximum de personnes puissent se déplacer. Peut-être qu'un jour, c'est nous-mêmes qu'on aurons besoin.
Et les médecins le soulignent, le simple prélèvement de sang ne prend au final que quelques minutes.
L'affaire avait fait beaucoup de bruit en France, mais aussi à l'international. Le 5 octobre dernier, le DRH d'Air France était retrouvé torse nu, chemise arrachée, poursuivi par des salariés en colère. Quatre d'entre eux avaient été licenciés. Le sort d'un cinquième était en suspens. Hier, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a tranché et a validé le licenciement de ce délégué CGT. CGT qui dénonce une décision politique à l'encontre du syndicat, une forme de revanche après les manifestations contre la loi travail. À l'inverse, Sébastien Huyghe, député Les Républicains du Nord, estime que la sanction est méritée.
Quatre personnes ont été licenciées pour faute lourde. Ce responsable syndical se devait d'avoir, en tant que responsable syndical, un comportement exemplaire. Ça n'a pas été le cas. Il a été coupable de violence et bien maintenant, il en paie le prix, comme tout à chacun.
Des propos recueillis par Elisa Bartholomé. La Turquie va-t-elle lâcher l'Europe dans le dossier de la crise migratoire? L'accord passé entre l'Union européenne et Istanbul pour contrôler l'arrivée de réfugiés est remis en cause par le président turc Erdogan. Dans une interview accordée au Monde, il accuse l'Europe de ne pas l'avoir soutenu après la tentative de putsch. Il menace de rompre l'accord sur les réfugiés. Pour Gaït Minassian, journaliste au Monde et spécialiste de la Turquie, il s'agit surtout de faire pression sur les Occidentaux.
Ce qui est clair, c'est que l'accord à l'égard des migrants est en train de se déliter. On peut s'attendre à ce que tout vole en éclats parce que Erdogan, il considère que les Occidentaux ont été lents, injustes, et donc lui, il veut régler ses comptes, mais il ne veut pas jusqu'à la rupture. Le problème est de savoir jusqu'où peut-il aller sans réveiller la colère des Occidentaux. Est-ce que lui ira jusqu'à remettre en question l'accord avec les migrants? Peut-être, mais ce n'est pas l'intérêt d'Erdogan parce que la Turquie cherche à se faire accepter autour de la table, sans changer certaines de ces pratiques qui sont inacceptables pour l'Union européenne.
Gayet Minassian, journaliste au Monde, au propos au micro de Violette Voldoir. Le président turc qui se tourne désormais vers la Russie. Il va rencontrer aujourd'hui à Saint-Pétersbourg son homologue russe Vladimir Poutine. Un peu de réjouissance à Rio, enfin on l'espère. La judokate Clarisse Agbeninou attendue comme le messie pour le camp français. Alors que le compteur est toujours bloqué à une médaille, elle pourrait nous amener enfin un titre aujourd'hui dans la catégorie des moins de 63 kilos. Dans son club à l'Escale d'Argenteuil, on a hâte de la voir enfin fouler les tatamis brésiliens. Aurélia Issoumaya et Maureen Lehoux.
C'est sa partenaire d'entraînement, une de ses meilleures amies. Alors même si Aurélia travaillera pendant les combats de Clarisse Agbeninou, hors de question d'en perdre une miette, elle boue déjà d'impatience.
Je suis très excitée à l'idée que Clarisse rentre enfin en course dans cette compétition. Et puis j'ai quand même une part de stress parce qu'avec les jeux, on ne sait jamais.
À l'image de son autre copine, Priscilla Nieto, éliminée dès le premier tour à Rio. Mais cette fois, Aurélia est beaucoup plus confiante.
Je vois pas qui est-ce qui peut bloquer Clarisse jusqu'à la finale.
Grâce à une technique bien à elle.
Comme Clarisse est une lionne et que c'est vraiment une machine, c'est toujours agréable de la voir combattre quand elle prend ses combattantes et qu'elle les extermine sur le dos.
Depuis le départ de Clarisse Agbeninou pour Rio, les deux amies se donnent très souvent des nouvelles et tout va pour le mieux.
Elle est en forme et là, elle a hâte en tout cas. Donc c'est ça qui est bon. Ça veut dire qu'elle a la rage.
La rage pour peut-être aller chercher sa première médaille olympique.
De l'or, c'est tout ce qu'on espère. Allez, on prend la direction de Rio pour le journal des sports.
RMC, Rio 2016.
En direct du Club France, on va retrouver Rodolphe Massé. Toujours une seule médaille pour les Bleus cette nuit. Camille Lacour a terminé 5e du 100 mètres d'eau.
Oui, à défaut de podium, Camille Lacour a fait les vagues à sa sortie du bassin après la finale remportée par l'Américain Ryan Murphy, je vais y arriver, devant le Chinois Xing Chaiyu. Camille Lacour s'en est pris au nageur chinois de manière virulente en direct sur RMC. Il a envie de vomir, dit-il, en voyant certains podiums sur lesquels montent des nageurs revenant de suspension. Notre consultante Sophie Camoun explique les propos de Lacour.
Je crois que sur le coup de la déception, Camille a tenu des propos assez violents. Je crois qu'il a dit ce que beaucoup de nageurs pensent. Je crois que les nageurs en ont marre de voir la Fédération internationale et le tribunal arbitral du sport réintégrer des nageurs aux Jeux Olympiques, des nageurs qui ont été contrôlés positifs et qui n'ont pas forcément été suspendus, ou alors qui ont été suspendus 3 mois ou 6 mois et qui nagent ici aux Jeux Olympiques et malheureusement qui sont sur les podiums et qui souvent même gagnent des courses.
Et toujours en natation, Charlotte Bonnet s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres nage libre avec le 7e temps des demi-finales. À Londres, la jeune Française n'avait disputé que le relais, mais elle a bien grandi depuis, Camille Gelpi.
La petite Charlotte, timide, introvertie, semble bien loin aujourd'hui.
Je pense que je suis plus celle de 17 ans où quand j'arrivais en compétition, j'avais un peu peur, j'appréhendais.
Dans son club de Nice, la nageuse a grandi dans l'ombre de sa grande sœur de cœur, Camille Muffat. La retraite de celle-ci, puis sa disparition, ont été compliquées à gérer, mais le temps a aussi fait son œuvre.
Elle est subtilement passée de la fin de l'adolescence au début de l'âge adulte, finalement.
Son coach Fabrice Pellerin a assisté à la métamorphose.
Elle a vécu des choses en tant que femme, donc au-delà du sport. On la sent radieuse, à l'aise. Elle est plus aujourd'hui en mesure de comprendre ses émotions et puis d'exprimer ce qu'elle a en elle.
Et dans l'eau cette année, Charlotte Bonnet s'exprime pleinement. Elle a tenu tête au meilleur mondial et glané sa première médaille internationale aux Europes.
Les derniers résultats ont prouvé que j'avais aussi ma place à faire dans cette équipe de France et au niveau international, donc c'est bien.
Une place qu'elle espère la plus belle possible ce soir.
Un résultat de la nuit, les basketteurs français ont battu facilement la Chine 88 à 60, une victoire qui fait du bien et qui relance l'équipe de France après sa défaite initiale contre l'Australie. Alors après 3 journées, le compteur de médailles est bloqué à 1 unité seulement en argent, le pire bilan depuis les Jeux de Moscou en 1980. Mais promis, aujourd'hui il y a de vraies chances de médailles. Vous avez parlé de Clarisse Agbeninou, il y en a aussi en escrime avec l'épée homme individuel. Gauthier Grumier, Daniel Gérant, Yannick Borel sont respectivement numéro 1, numéro 5 et numéro 6 mondiaux, alors forcément, leur entraîneur Hugo Bry y croit.
Je pense que les mecs, le plus important, c'est qu'ils soient sereins et qu'ils sachent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont capables d'aller chercher la médaille d'or. Quand t'arrives au jeu et que t'es numéro 20, 25e mondial, t'as pas gagné une compète de l'année, tout ça, tu peux avoir envie de rêver, envie de gagner, tout ça, mais si tu l'as pas fait auparavant, nous on l'a fait, et sur des grands événements, sur des grands championnats, donc ils ont le droit de rêver ça, et moi je les sens capables de faire ça.
Hugo Bry avec Nicolas Jamin. Toutes ces épreuves sont à vivre sur RMC en direct dans l'intégrale Rio 2016 à partir de 14h. Et on vous retrouve, Perrine, pour les pronostics des courses.
Merci Rodolphe Massy en direct de Rio. Et oui, les pronostics pour le quintet de cet après-midi à Enghien. Sébastien Darassem, le 7, Special Request, et le 3, Zakol. Brahim Asloum retient le 9, Lassine. Laurent Godard, quant à lui, vous conseille le 2, Childwind, et le 12, Gris Noir.
Merci Perrine, à tout à l'heure, 8h30 pour un nouveau journal à suivre dans Bourdin Direct. La Turquie, que se passe-t-il avec le président Erdogan? Va-t-on mettre fin à nos relations diplomatiques? J'accueille tout à l'heure l'ambassadeur turc à Paris pour en parler. Ce sera à 8h10. Juste avant 8h, on passera en revue notre deuxième proposition objectif 2017. Ce que veulent les Français. Aujourd'hui, c'est l'emploi qui nous intéresse. 8 Français sur 10 d'accord pour mettre à la retraite les salariés qui y ont droit et les remplacer par des jeunes. On en parle avec Yves Marie-Cane et avec Pascal Perry. Dans un instant, on s'intéresse à Telegram. Vous le savez, cette appli encore mise en cause avec cet ado de 16 ans mise en examen, à l'utiliser pour faire des menaces d'attentat. C'est Nicolas Arpagian de l'Institut National de Haute Sécurité qui sera avec nous. Mais d'abord, on part à Menton ce matin. Bonjour Jean-Claude Guibal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le maire de Menton et vous en avez marre de voir arriver des migrants chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de contrôle à la frontière? C'est ça le problème, à la frontière avec l'Italie?
Non, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Les forces de police sont toutes impliquées, font du mieux qu'elles peuvent. Le problème tient au fait que depuis 12 mois sont arrivés en Italie entre 80 000 et 100 000 migrants venus de Libye, qui sont remontés le long de la botte italienne et qu'ils sont massés là, le long de la frontière française. Il y a sur la commune de Vintimille, qui est la commune voisine et sistership, si j'ose dire, de Menton, plus de 1000 migrants, encadrés par des no-borders, qui les manipulent, qui les excitent, qui les poussent à passer la frontière. De ce fait, plus nombreux, ils remontent, ces migrants, le long de la Vallée de la Roya, qui est une vallée de montagne, et ils passent la frontière par des chemins, et non plus, comme ils le faisaient jusqu'à présent, par l'autoroute ou la voie ferrée,
oui,
qui
donc
était plus facile
à
contrôler.
Il est difficile de contrôler, effectivement, ces 40 kilomètres à peu près, qui sont aussi des kilomètres de montagne.
Qui sont des kilomètres de montagne, avec des migrants plus nombreux, mieux encadrés, si j'ose dire, et étalés sur une distance plus longue, et par ailleurs montagneuse, donc difficile à contrôler. Ce qui s'est traduit vendredi dernier par un fait inédit. Pour la première fois depuis des années, la frontière a cédé. 200 migrants se sont précipités et ont enfoncé la frontière au poste de Saint-Ludovic. Ils ont été rapidement, en deux heures, récupérés par les forces de police, reconduits en Italie. Les Italiens, comme toujours, se comportent remarquablement à l'égard de leurs voisins français, ont accepté de récupérer ces migrants sans même procédure de réadmission. Mais cette rupture de la frontière constitue comme une sonnette d'alarme.
Vous souhaitez quoi aujourd'hui, Jean-Claude Guibal? Vous souhaitez qu'on mette plus de forces de police à votre disposition, qu'on redéploie les effectifs, qu'on sécurise véritablement la frontière avec l'Italie?
Oui, juste avant de répondre à votre question, ce qui nous est dit aussi par les Italiens, c'est qu'ils ont identifié un certain nombre de personnes dangereuses, un terroriste potentiel, qui se sont infiltrés dans les groupes de migrants qui ont passé la frontière. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est, tout en étant conscients que toutes les forces de police sont sur le pont aujourd'hui et mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour lutter contre le terrorisme, ce que nous demandons, c'est que une faible partie d'entre elles, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des milliers de policiers, soient redéployés sur la frontière. Et par ailleurs, que soit mis en place un dispositif qui complète le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine, qui le complète par un dispositif de lutte aussi contre le terrorisme, de manière à associer policiers et militaires, comme ça a commencé déjà à être fait avec un contingent de 60 militaires pour mieux tenir toute la frontière sur la partie montagneuse en particulier.
Merci Jean-Claude Guibal, et c'est la raison pour laquelle vous allez écrire à Bernard Cazeneuve. Il est 8h moins le quart. On va accueillir Nicolas Arpagian dans un instant pour parler de cette application Telegram. Mais avant, je voudrais vous signaler, parce que ça vient de se faire, la loi travail est promulguée, elle est publiée au journal officiel. L'information vient tout juste de nous parvenir. 8h moins le quart sur RMC.
Bourdin Direct, RMC tout en direct. RMC, tout savoir, tout comprendre.
Et à 7h47, votre invité Raphaël Nicolas Arpagian, directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.
Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC. On a vu les limites de l'application, la fameuse application Telegram qui a servi, on s'en souvient, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Aujourd'hui, en quelque sorte, rebelote avec cette jeune fille qui menaçait de commettre des attentats. Elle a été interpellée, elle a 16 ans, elle a été mise en examen. Ça veut dire que cette fois, ça a marché, mais ça pose quand même des questions.
En tout cas, c'est l'illustration que ces messageries sont en tout cas pleinement appropriées par cette génération qui avant consultait beaucoup, et maintenant là on a une illustration de quelqu'un qui est animateur, co-animatrice, co-gestionnaire effectivement d'une communauté. Elle l'utilise pour émettre des messages, et on voit qu'elle prend la main alors qu'elle n'a ni compétences techniques, ni budget qui permettrait de communiquer à grande échelle. Donc c'est effectivement quelqu'un qui s'est approprié le système de communication. Alors effectivement, vous le dites, c'est une enquête qui a permis d'identifier. On est là à chaque fois dans du cas par cas. C'est-à-dire que alors qu'il est très facile de dupliquer, de multiplier la création de comptes, on voit bien que les enquêteurs, eux, se retrouvent, et c'est normal d'ailleurs, à faire du cas par cas, de trouver quelqu'un, d'enquêter individuellement pour réussir à remonter un à un les animateurs de tel groupe.
Oui, parce que pour une interceptée, combien d'autres ne le sont pas ? Il faut d'abord pouvoir, si j'ose dire, infiltrer un réseau. Et sur cette messagerie qui est cryptée, c'est évidemment plus difficile qu'ailleurs.
Voilà, parce que en fait, il y a différents niveaux de protection. Il y a des forums qui sont ouverts, un peu comme sur des chaînes YouTube où vous pouvez vous abonner. Et il y a des conversations qui, elles, se font en petits comités, entre deux personnes notamment, et qui, elles, sont chiffrées. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans l'obligation d'avoir également un renseignement de terrain, un renseignement humain, pour comprendre qui se cache derrière tel pseudonyme, tel dernier numéro de téléphone, et ainsi de comprendre est-ce qu'il s'agit juste de quelqu'un qui montre, en tout cas tout seul, isolé, commence à avoir l'illusion d'être un acteur important de la communauté djihadiste, ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui peut s'avérer dangereux et qui est réellement en train de mener une opération offensive.
Oui, c'est d'autant plus difficile, hein, Nicolas Arpagian, que quand on regarde le nombre de messages échangés, c'est faramineux, 12 millions par jour. Il y a forcément des choses qui nous échappent.
Et c'est forcé, puisque en fait, c'est-à-dire que c'est une utilisation permanente pour, avec quelquefois en plus des vocabulaires qui sont, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être dans une recherche automatisée avec des mots-clés, comme on a pu le faire, par exemple, les Chinois ont pu le faire sur certains réseaux sociaux à une époque à grande échelle, parce que évidemment, vous vous doutez bien qu'ils n'utilisent pas forcément des mots clairement exprimés, et puis il faut avoir accès à cette matière qui est extrêmement abondante et donc qui démultiplie les pistes. Et donc les occasions de perte de temps et de perte d'énergie pour des services de renseignement.
Alors ce sont des Russes qui ont lancé cette appli. Ils ont depuis Saint-Étienne-du-Rouvray fermé, je crois, 80 comptes de leur propre initiative. Mais ils disent, et ça c'est important, le droit à la confidentialité est plus important que notre peur que quelque chose de mal, comme le terrorisme, se produise.
C'est pour ça qu'il ne s'agit pas que d'une entreprise commerciale qui fournirait un service de communication. Vous l'avez dit, c'est bien une entreprise qui a une prétention, une vocation politique, c'est-à-dire avec une hiérarchie des valeurs au-dessus desquelles elle pose la question de la liberté d'expression. Lorsque, effectivement, les 80-78 comptes ont été fermés juste après les attentats de Paris, c'est bien de leur propre initiative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtempéré à une décision de justice. Ça a été une espèce de prise de conscience immédiate liée peut-être à l'émotion ou à la force de l'événement. Mais c'est bien, et vous voyez qu'on se retrouve dépendant de la volonté et de l'interprétation de dirigeants d'entreprises commerciales face à des sujets qui, jusqu'à présent, dans notre droit, relèvent de la sécurité publique, relèvent éventuellement de la sécurité nationale. Donc ce sont ces grands acteurs de l'Internet, parce qu'on a le même phénomène avec les acteurs de Californie, avec Google pour son champ YouTube, Twitter, qui se retrouvent, en fait, les arbitres de ce qui peut être accessible ou de ce qui ne l'est pas, selon leur législation nationale et selon leurs critères d'interprétation.
Merci beaucoup, Nicolas Arpajan, de nous avoir aidé à y voir clair sur les limites de cette application Telegram. 7h51 sur RMC. Nous partons à Bouvante, dans la Drôme. On nous écoute là-bas, Kevin, sur le 104.3.
Oui, dans le Vercors, avec là encore de très belles conditions anticycloniques, de très fortes températures. Il y a enregistré 32, 33, voire 34 degrés en plein soleil. Fort heureusement, le vent soufflait fort. Ce qui a eu comme conséquence, c'est bien d'abaisser les températures ressenties. Les prévisions pour aujourd'hui, avec le retour du soleil par la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Toujours cette petite perturbation ce matin que l'on retrouve des côtes charentaises en remontant vers l'Alsace-Lorraine, ça donne des pluies un peu plus soutenues, un peu plus continues sur les régions de l'Est. Et puis dans l'après-midi, tout ceci évolue, tout ceci se disloque, laissant cependant quelques averses encore entre les Alpes et les Pyrénées. Un orage n'est pas exclu en seconde partie d'après-midi. Pour les températures, contraste important, 19 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Brest, 24 degrés pour Nantes, 20 degrés également pour Strasbourg et jusqu'à 31 degrés encore une fois en bordure de Méditerranée.
À suivre sur RMC, notre rendez-vous Objectif 2017, ce que veulent les Français. Ce matin, on parle emploi. On va détailler les propositions des Français pour un retour du plein emploi. On en parle avec Pascal Perry et Yves-Marie Kahn de l'Institut Elab. C'est dans un instant sur RMC.
RMC, Objectif 2017, ce que veulent les Français.
Et ce que veulent les Français, c'est de l'emploi, bien sûr. Et pour ça, ils sont prêts à faire pas mal de choses. Bonjour Yves-Marie Kahn.
Bonjour.
Directeur des études politiques à l'Institut de sondage Elab. Face à vous, il y a Pascal Perry. Bonjour Pascal.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Alors en janvier, on a interrogé les Français sur l'emploi. Et 85% d'entre nous disent on peut mettre à la retraite ceux qui ont droit d'office à condition, Yves-Marie Kahn, d'embaucher des jeunes.
Oui, effectivement, on avait testé cette mesure en début d'année, une mesure plébiscitée par une large majorité de Français, une mesure qui, je pense, a le mérite pour beaucoup d'apparaître équilibrée. Certes, il y a une contrainte en termes d'effectivement de mise d'office à la retraite pour ceux qui ont acquis leurs droits, mais il y a un bénéfice facilement identifiable, à savoir conditionné par l'emploi de jeunes, qui répond à une forte demande, tant on sait que le chômage des jeunes aujourd'hui en France est particulièrement élevé.
Pascal, on remplace les vieux par les jeunes, c'est ça l'idée.
C'est une bonne idée, c'est l'idée de la solidarité intergénérationnelle. J'ai fait mon temps, je passe le témoin à des jeunes. Alors, c'est une bonne mesure, mais il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux avec le tutorat, notamment. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas séparer les jeunes et les vieux. D'abord parce qu'il y a une problématique de transmission des savoirs. Dans de très nombreux métiers, on s'est aperçu que avec le départ de quelques générations qui portaient l'héritage professionnel, on perdait une partie du savoir. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un temps de passage entre les uns et les autres. Et puis la deuxième mesure qui est plébiscitée par les Français, c'est d'encourager les entreprises, de les récompenser plutôt pour celles qui font de la formation, baisser les cotisations sociales des entreprises qui font de la formation. J'attire simplement votre attention sur le fait que quand on parle de cotisations sociales, en face il y a une prestation, notamment la prestation vieillesse, la retraite. Donc on ne peut pas demander aux gens de partir à la retraite si en même temps il n'y a pas la promesse d'une retraite pleine et entière. Je crois que ce serait une bonne idée de travailler sur l'impôt sur les sociétés, baisser l'impôt sur les sociétés pour les boîtes qui font de la formation.
Dites-moi, ce débat et cette question, on l'avait posé au mois de janvier. Forcément, les choses ont bougé entre-temps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu le débat sur la loi travail. Vous avez vu que ça y est, c'est fait. Elle est promulguée, elle est parue ce matin au journal officiel, cette loi travail. On a vu que ça avait été difficile, poussif même. Yves-Marie Kahn, est-ce que ça a pu faire bouger les lignes ?
La loi travail, non, clairement pas. On voyait déjà d'ailleurs dès ce sondage que les Français n'étaient pas prêts à tout accepter, et notamment le fait de faciliter le licenciement dans les entreprises en cas de baisse d'activité. C'était une proposition qui a été rejetée par 59% des personnes interrogées. On était en janvier, on a vu ce que ça a donné à travers la loi travail. Le rejet de ce type de mesure ne s'est pas démenti au cours des derniers mois. Et si on devait reposer la question aujourd'hui à un échantillon de la population française, on retrouverait sans doute le même type de résultat.
Pascal ?
Oui, alors il y a en revanche une mesure qui est plébiscitée par les Français, par 61% des Français, que je défends moi, c'est la fin du CDD et du CDI vers un contrat unique qui serait un contrat chargeable ou rechargeable. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus le salarié acquiert des droits. On voit bien, par exemple, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont incapables de construire un projet de vie parce que ils vivent une succession de CDD, que la banque ne leur prête pas d'argent, que dans leur vie quotidienne, ça pose un vrai problème de ne pas avoir de visibilité. Donc, aller vers un contrat unique, à mon avis, c'est une ressource importante pour revenir à l'emploi, pour ne pas décourager les employeurs et pour encourager ceux qui veulent vraiment travailler.
Pascal Perry, Yves Maricane, messieurs, on vous retrouve demain, même heure, même endroit, avec un autre sujet, une autre question de ce sondage Objectif 2017, ce que veulent les Français. Et puis évidemment, vous réagissez au 32-16. On vous attend entre 9h et 10h. 7h58 sur RMC.